Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mercredi 22 décembre.
Bah ouais, mais de toute façon, les gouvernements, ils font rien non plus, c'est des bruits. Hein.
Tous, il y en a quand même qui font des choses quand même.
Oui, tous, y a des quand même.
Tous des pourris. Alors écoute, on en a déjà parlé, dire, les mecs de droite, tous les mecs de gauche, ouais, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche.
Voilà, le réveillon chez les inconnus au début des années 90, ce qui est absolument savoureux, on adore, on s'en lasse jamais. Et 30 ans plus tard, c'est la même chose, finalement, rien n'a changé. La politique pimente toujours les conversations autour des petits fours et de la dinde au marron à l'aube d'une année marquée par la présidentielle. On ne va sans doute pas y couper.
L'élection au centre des débats familiaux, d'accord, mais pas seulement. Hein. Il y a aussi le Covid, nouvelle vague, nouvelle dose de vaccin,
ouais,
etc.
Le pass sanitaire, les complotistes, le climat, le foie gras. Comment faire pour ne pas finir fâché avec la moitié de ses proches après avoir déballé les cadeaux? On écoutera les bons conseils de la philosophe Laurence de Villers à 6h moins le quart. Dans l'actualité ce matin, Julien.
Une question qui va à coup sûr être abondamment discutée au réveillon. Faut-il vacciner nos enfants contre le Covid? Le conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale doit donner son feu vert dans la matinée. Dernier verrou avant les premières injections qui pourraient avoir lieu dès cet après-midi. Vacciner les 5-11 ans va-t-il avoir un impact sur l'épidémie? Est-ce nécessaire alors que les enfants font peu de formes graves? Et plus largement, la stratégie du tout vaccin est-elle la bonne face au très contagieux Omicron qui est en train de déferler sur le pays? Autant de questions qu'on va poser à 6h10 à l'urgentiste Gérald Kierzek, dont les dernières prises de position font beaucoup réagir. Et puis on terminera avec votre partition, Blin.
Sa prestation sur la scène de Woodstock en août 1969 a fait de lui une légende. Il avait seulement 25 ans. La partition de Joe Cocker qui nous a quittés le 22 décembre 2014. Rendez-vous à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Très bon réveil à tous avec Europe 1 et la météo pour commencer. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
C'est le froid qui domine encore ce matin, froid très vif. Hein.
Alors attention, je vais vous glacer le sang.
Ah mince.
Puisque j'ai un petit record à vous annoncer là actuellement. Hein,
oui.
Je viens d'aller contrôler ça. Il fait moins 17 à Mout.
Moins 17 à Mout.
Alors à Mout, c'est dans le Doubs et c'est ce qu'on appelle la petite Sibérie qui est quand même une commune connue pour ses records de froid. Moins 17, ça leur fait pas peur à Mout, mais on embrasse quand même les doubistes qui nous écoutent. Va falloir se couvrir ce matin. Il fait froid actuellement, on a moins 8 à Guéret. Ça, ce sont les températures actuelles, là, à 5h. Moins 7 à Saint-Dizier, moins 6 à Épinal et Bourg-Saint-Maurice. Moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 3 à Beauvais, 0 à Cherbourg, 3 degrés à La Roche-sur-Yon, 5 à Pau, 9 à Nice. Alors cet après-midi, on va garder des valeurs négatives dans le Grand Est. C'est ça aussi qui est impressionnant aujourd'hui. C'est que ça ne va pas grimper cet après-midi. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est l'amplitude thermique qu'on va avoir entre le Grand Est où les températures sont négatives avec moins 2 à Épinal et 19 degrés à Biarritz. C'est le grand écart. Alors dans le ciel ce matin, en Alsace et dans le Val-de-Saône, on a encore quelques brouillards qui traînent, ils sont moins nombreux qu'hier. Au nord de l'Auvergne aussi, attention aux brouillards givrants. De manière générale, le ciel est assez dégagé et cet après-midi, une nouvelle fois, c'est le soleil qui domine, sauf au bord de la Méditerranée où là, les nuages sont un peu plus épais.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bienvenue à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Porte donc à montrer que après plusieurs semaines de ralentissement, l'épidémie repart à la hausse.
L'inquiétude grandit à deux jours du réveillon. 73 000 cas en 24 heures. Le variant Omicron représente déjà 20% des contaminations. Le gouvernement pourrait serrer la vis dans les prochains jours. Les détails dans un instant. Deuxième jour en Arménie pour Valérie Pécresse. La candidate Les Républicains à la présidentielle est arrivée hier, multipliant les visites et hommages. Elle veut se donner une image de chef d'État et tente de faire la différence avec Éric Zemmour. Et puis, 19e journée de Ligue 1 ce soir, la dernière avant 2022. Les équipes en bas de classement jouent gros à l'image de Lorient, avant-dernier, qui reçoit le Paris Saint-Germain premier. Les Bretons ont une carte à jouer avec l'absence de Kylian Mbappé.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce mercredi vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Les chiffres du Covid donnent le vertige alors que l'épidémie semblait marquer le pas. 73 000 cas détectés hier, plus 15% en une semaine. Et sans surprise, le variant Omicron progresse de manière fulgurante. Il représente maintenant une contamination sur 5. Scénario inquiétant à deux jours du réveillon de Noël pour le gouvernement qui veut absolument éviter de nouvelles restrictions. Mais force est de constater ce matin qu'il va peut-être falloir serrer la vis. Louis Dragnel, dans les couloirs des ministères, on ose même prononcer à nouveau un mot tabou, couvre-feu.
Oui, jusqu'à hier, le gouvernement balayait d'un revers de main la possibilité d'un retour du couvre-feu. Et depuis ce matin, la musique a changé de ton. Le couvre-feu n'est plus écarté. Alors, si la mesure est appliquée, ce ne sera pas avant Noël, car l'objectif est de laisser les Français se retrouver en famille. Mais à partir du 31 décembre, tout est possible, sauf un reconfinement jugé aujourd'hui impensable. En fait, s'il a peu d'éléments sur l'impact de ce variant Omicron, le gouvernement est réellement inquiet. Ce qui explique cette accélération, l'exécutif continue de faire le pari du vaccin en augmentant de 2 millions le nombre de rendez-vous disponibles avant le début de l'année. Accélération aussi pour la mise en place du pass vaccinal. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres exceptionnel le 27 décembre, c'est-à-dire lundi prochain, à la place du 5 janvier, pour une adoption espérée avant la fin janvier. En clair, pour le moment, le gouvernement prépare les esprits à un scénario que les Français redoutent depuis quelques semaines, un scénario qu'Emmanuel Macron préférerait éviter, le président qui espère toujours faire campagne sur le terrain et dans une France où le virus est maîtrisé.
Merci Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Et on reviendra sur cette flambée du variant Omicron en France et également la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui pourrait débuter aujourd'hui à 6h10 avec le médecin urgentiste Gérald Kierzek.
Dans le projet de loi du gouvernement présenté lundi prochain, pas de passe sanitaire en entreprise, faute de consensus suffisant, mais, car il y a un mais, les députés de la majorité pourraient l'introduire par amendement et ainsi le faire passer dans certaines sociétés. Sa mise en place ne devrait pas poser trop de problèmes, comme l'a constaté Carole Ferry dans le centre d'escalade Arcos à Paris. Reportage.
J'étais pas trop parti pour me faire vacciner au début, mais...
Mais pour travailler dans cette salle d'escalade qui accueille plus de 300 personnes par jour, eh bien Samuel, 42 ans, doit avoir un pass sanitaire. Alors il a gardé ses convictions, mais a pensé à ses enfants. Et quand les tests sont devenus payants, il s'est résigné à se faire vacciner.
Je l'ai fait vraiment pour travailler, quoi. Mais moi, j'ai des enfants, je peux pas me permettre de vivre en dehors de la société, de gâcher leur enfance en n'ayant pas de boulot en plus. Donc je pense que quelque part, oui, je me sens pas libre. Mais j'en veux pas à l'entreprise.
Et d'ailleurs, le responsable des Salarcos, Sami Kamarzana, estime que c'est vraiment à chacun de décider. Lui s'est beaucoup renseigné afin d'informer les salariés réticents qu'il a reçus un par un dans son bureau. Bilan final, 3 ont préféré démissionner sur 350.
C'est des gens qu'on a formés, qu'on a recrutés, sur lesquels on a investi, donc on est évidemment pas ravis de les avoir perdus. Donc oui, c'est désagréable de devoir avoir des discussions avec des gens qu'on connaît depuis 4, 5, 6 ans. On pourra toujours dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre ou que c'est le job de quelqu'un d'autre, mais en réalité, non. Je pense que c'est un faux débat que de dire que c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de faire ce qu'il faut pour faire marcher l'entreprise.
Aujourd'hui, 100% de ces salariés sont vaccinés et ces salles tournent à plein régime.
Carole Ferry, journaliste au service Écho d'Europe. En attendant la mise en place d'un éventuel pass sanitaire en entreprise, Elisabeth Borne incite à respecter 3 à 4 jours de télétravail par semaine à la rentrée. La ministre du Travail sera l'invitée d'Europe 1 ce matin à 8h15. En Israël, où la campagne de rappel a débuté avant le reste des pays du monde, le Premier ministre Naftali Bennett annonce la 4e dose, bientôt ouverte aux plus de 60 ans et aux soignants.
5h est passée de 5 minutes sur Europe 1. On prend maintenant la direction de l'Arménie, où Valérie Pécresse entame sa 12e journée de visite.
Un déplacement lourd de sens pour la candidate des Républicains à la présidentielle en visite aux chrétiens d'Orient. Hier, elle a enchaîné les rencontres, les visites. Valérie Pécresse veut se donner une image de chef d'État, Alexandre Chauveau. L'objectif, faire la différence avec Éric Zemmour.
Oui, quelques heures seulement après avoir atterri et en n'ayant quasiment pas dormi, Valérie Pécresse a suivi à la lettre un programme très chargé. Visite du mémorial du génocide, du cimetière militaire, rencontre avec le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Autant d'honneurs auxquels n'avait pas eu droit Éric Zemmour et qui, selon Valérie Pécresse, illustre la crédibilité de sa candidature.
C'est ma 3e visite en Arménie et aujourd'hui je viens en ami de l'Arménie. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je suis bien reçue. Et pour présider la France, eh bien, il faut avoir construit des relations dans la durée et dans la confiance.
Hier a donc été l'occasion pour elle de marquer une nouvelle fois sa solidarité avec les chrétiens d'Orient. Elle a d'ailleurs notamment échangé une heure avec le chef du culte chrétien arménien, à qui elle a promis son engagement dans la sauvegarde du patrimoine culturel et spirituel du pays. Le combat de François Fillon pour les chrétiens d'Orient trouve donc écho 5 ans plus tard dans la campagne des candidats à droite. Et sur ce sujet encore, Valérie Pécresse n'entend rien céder à Éric Zemmour.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Il s'appelle Louis, a 28 ans et est activement recherché depuis hier soir.
C'est un prisonnier incarcéré à Osny, dans le Val-d'Oise, en détention provisoire pour un meurtre commis dans le Val-de-Marne en septembre dernier. Extrait jusqu'à l'hôpital de Pontoise, il s'est évadé dans la soirée. Les explications d'Arthur Pereira.
Un scénario parfaitement orchestré. Après s'être automutilé dans sa cellule, l'homme de 28 ans, issu de la communauté des gens du voyage, a été transporté vers le centre hospitalier de Pontoise. Mais là, tout juste arrivé sur le parking de l'hôpital, aux alentours de 21h30, le fourgon a immédiatement été pris d'assaut par deux individus armés. Ces derniers ont alors ouvert le feu sur deux agents pénitentiaires. L'un d'entre eux a été grièvement blessé, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Selon plusieurs sources, l'un des deux tireurs serait la compagne du prisonnier. Il aurait réussi finalement à s'échapper à bord d'une voiture. L'homme était en détention provisoire depuis fin septembre à la prison d'Ony dans le cadre d'une affaire de meurtre.
Arthur Pereira est le détenu régulièrement armé et considéré comme très dangereux. La police lui connaît plusieurs points de chute, notamment dans le Val-de-Marne et en Essonne. La ville de Paris va porter plainte, annonce hier soir d'Anne Hidalgo après la dégradation de la plaque du square Samuel Paty, située devant la Sorbonne en début de semaine. Inauguré il y a deux mois, le mot islamiste a été rayé dans la mention victime du terrorisme islamiste.
On ouvre notre page sport à présent avec du foot pour changer.
Oui, ou plutôt les incidents lors des matchs de foot. Après le fiasco en tribune de la rencontre de Coupe de France Paris FC Lyon vendredi dernier, la préfecture de police de Paris a annoncé hier l'interpellation de 3 supporters ultra. D'autres arrestations pourraient avoir lieu dans les prochains jours. L'enquête se poursuit.
Et le foot, le vrai, celui qu'on aime sur le terrain, il y en a ce soir, 19e journée de Ligue 1, la dernière avant la trêve des confiseurs.
Et 10 matchs au programme, hein, tous à 21h en bas du classement. Saint-Etienne, Metz, Lorient qui vont tenter de se relancer. Le Paris Saint-Germain premier espère terminer l'année sur une bonne note, Cyril de la Morinerie, même si Kylian Mbappé, auteur d'un doublé lors des 3 dernières sorties, est absent.
Oui, les Parisiens se déplacent à Lorient, un mal classé, sans Kylian Mbappé qui vient de fêter son 23e anniversaire. La star est suspendue, Neymar est blessé, mais Lionel Messi, préservé en Coupe de France, est d'attaque et il est incontestable, a affirmé en exclusivité sur Europe 1 le directeur sportif du PSG, Leonardo.
Messi, c'est indiscutable pour moi. Si tu commences à discuter un peu Messi, c'est que tu n'as rien compris.
Rennes qui se déplace à Monaco et Nice qui accueille Lens peuvent encore terminer l'année à la deuxième place. Mais c'est Marseille, actuellement dauphin du PSG, qui est le mieux placé. Et l'appétit vient en mangeant, comme l'explique l'international marseillais Matteo Guendouzi.
Ce qu'on veut, c'est jouer avec des champions l'année prochaine. Donc forcément, c'est être dans les 3 premiers.
Le champion de France, Lille, 11e seulement de Ligue 1, se déplace à Bordeaux. Mais Lyon est en position beaucoup plus délicate, 13e seulement. Les Lyonnais affrontent un mal classé Metz, enfin à suivre. Les premiers pas dans le chaudron stéphanois du nouvel entraîneur des Verts, Pascal Duprat. Le dernier, Saint-Etienne, reçoit Nantes. À suivre enfin 3-Brest, Montpellier-Angers et Clermont-Strasbourg.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Vous avez le programme et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09 et c'est l'heure des courses avec Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 612, Éveil du Châtelet. Il vient de s'imposer de peu, mais avec la manière. Le 9 décembre à Vincennes, associé à Mathilde Herlexplas, une cavalière norvégienne à qui tout réussit actuellement. Ce tandem, qui s'entend visiblement à merveille, totalise une victoire et une seconde place en seulement 2 tentatives et devrait donc pouvoir une nouvelle fois jouer un tout premier rôle. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 12, Éveil du Châtelet.
Merci beaucoup Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Ne vous éloignez surtout pas, le pressing va ouvrir ses portes et on a choisi 3 nouvelles histoires à vous raconter ce matin.
Au menu, les 20 ans de Mythique, la crainte d'une pénurie de pâtes à tartiner et les mystères du sommeil. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11, bon réveil, c'est le pressing, c'est votre revue de presse et on a le plaisir d'accueillir Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux et la ruée sur les tests Covid avant Noël, c'est le titre principal du Parisien aujourd'hui en France. Près de 900 000 dépistages sont réalisés chaque jour, soit 2 fois plus qu'à la fin novembre. Électricité, gaz, la tension monte encore d'un cran, titre de leur côté les Échos qui s'inquiètent d'une nouvelle flambée des cours et de la faiblesse de notre production électrique. Résultat, les importations de courant battent des records. Et puis, un acteur à la une de Libération, Keanu Reeves, alias Neo. Pourquoi Matrix 4 nous a mis la tête à l'envers, titre Le Quotidien, qui a beaucoup aimé, visiblement, l'ultime opus de la mythique saga. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Et un anniversaire qui est passé inaperçu, le site de rencontre Mythique fête ses 20 ans, et c'est dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Quand Mythique est arrivé sur la toile, eh bien les célibataires étaient encore nombreux à rester fidèles au Minitel rose. Voilà. Je vous parle d'un temps.
Non,
vous connaissez la chanson. Le quotidien nous raconte comment Mythique est né après un dîner pendant lequel trois amis divorcés se racontaient leur galère amoureuse. Et si on lançait un site de rencontres sérieuses ? Alors, on ne va pas se mentir, Mythique connaît des débuts timides. Le profil du célibataire en quête de l'âme sœur est un cadre urbain de 35 ans qui possède un ordinateur à domicile. Et pas seulement un Minitel, donc. 20 ans plus tard, d'après la dernière étude de l'IFOP, 30% des Français ont déjà fait cette année, en 2021, au moins une fois un tour sur un site de rencontre. Un professeur à l'université spécialiste du sujet explique « Tout le monde y va, tout le monde essuie des râteaux ». Les mentalités, donc, ont clairement évolué. Et aujourd'hui, il existe plus de 2000 applications accessibles directement sur son téléphone portable, donc plus besoin d'ordinateur. Encore moins de Minitel. Et vous avez le choix, on trouve toutes sortes d'applis qui collent de plus en plus au profil des utilisateurs. Disons demain, pour les plus de 50 ans, Green Lovers pour les écolos, VG Love pour les végétariens. Je suis sûre qu'un marché peut exister aussi pour les amoureux des Labradors.
Pourquoi vous m'en regardez ?
Pour rien. On ne s'y...
Labralove.
Labralove. Ah ben, je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. On ne stigmatise plus ceux qui cherchent l'amour sur le web. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui le font par intermittence et qui jonglent entre rencontres en distanciel et en présentiel. Mythique & Co. sont finalement des compléments, une ombre, enfin au moins une ombre au tableau cependant. Le côté consumériste des applis et cet effet catalogue, comme lorsqu'on coche des cases d'un filtre sur un site de recherche de biens immobiliers, trois pièces avec un balcon ou chambre sur cour. Bon, mais quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, les rencontres en ligne ont un bel avenir devant elles. Comment Mythique a révolutionné nos amours, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Ombline, pour cette touche latine à 5h14 sur Europe 1. Martin, on vous écoute.
Oui, il est un peu plus de 5h. Hein. Peut-être que vous êtes en plein petit déjeuner et qui dit petit déjeuner dit Nutella ou la plus générique pâte à tartiner. Mais profitez-en, hein, le site Slate nous apprend ce matin qu'on pourrait bientôt assister à une pénurie de Nutella. Je sais, Ombline, Julien, c'est un véritable drame.
Vous n'allez pas quand même nous dire qu'une pénurie de Nutella, c'est à cause du Covid ?
Eh bien non, pas du tout. Hein.
C'est à cause du Covid ?
Non, c'est à cause de la crise économique qui frappe la Turquie. L'inflation est galopante, hein, plus 21% en un an et surtout plus 21% le mois dernier en novembre. C'est énorme. Ajoutez à cela le cours de la lire, hein, c'est la monnaie turque qui s'effondre et vous obtenez une situation dramatique. On en parle peu, hein, mais les Turcs ont de plus en plus de mal à se soigner et l'accès au pain est devenu un véritable enjeu politique. La Turquie est un rouage essentiel de la production de pâte à tartiner parce que le pays gouverné par Recep Tayyip Erdogan est le plus gros producteur de noisettes, ingrédient essentiel pour le Nutella. Le secteur emploie 4 millions de personnes et fournit 70% de la consommation mondiale. Sauf qu'avec la crise dont je viens de vous parler, hein, les cultivateurs ne peuvent plus acheter d'engrais ou de semences et n'ont d'autre choix que de réduire leur activité. Ferrero, le géant derrière Nutella, qui achète un tiers de ses noisettes en Turquie, risque d'avoir de gros problèmes d'approvisionnement, sans parler de ses concurrents, qui eux aussi misent beaucoup sur la noisette turque. Bref, la tartine matinale est en danger. Les prix pourraient augmenter et la production de pâte à tartiner s'effondrerait drastiquement. Selon ce consultant interrogé par le Wall Street Journal, c'est très sérieux, le monde est au bord d'une pénurie de noisettes. Il conseille d'ailleurs de faire des stocks de Nutella la prochaine fois que vous allez au supermarché. Donc voilà, Ombline, Julien, n'hésitez pas. La crise économique turque pourrait mener à une pénurie de Nutella, c'est sur le site Slate.
Vous avez cassé l'ambiance.
Ouais, désolé.
Moi, je suis plutôt au team beurre de cacahuète, personnellement.
Non, team Nutella.
Oh, Nutella, ouais.
Team Nutella, mais oui.
Moi, c'est trop gras.
Mais c'est pas grave, c'est ça qui est bon.
Faut dire que le beurre de cacahuète, c'est tellement sain.
Et c'est tellement moins sucré.
Ouais. Merci beaucoup, Martin. Non, le très bon beurre de cacahuète sans aucun sucre, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein. Ouais. On parle pas des produits qu'on trouve en supermarché. Je vais vous poser à présent une question qui va vous sembler terriblement stupide à 5h16, alors que vous luttez, je le vois bien, pour garder vos paupières ouvertes. Cette question est pourtant plus complexe qu'il n'y paraît. La voici. Pour quelle raison tous les êtres vivants dorment-ils ? Pourquoi passons-nous un tiers de notre vie en moyenne à dormir ?
On est fatigué. Alors, la réponse la plus simple.
Oui, certes, mais on...
En tout cas, ça serait bien si on ne le faisait pas.
Enfin, ouais, alors, attendez. On n'a pas forcément besoin de dormir pour récupérer, lire pendant quelques heures, se promener en forêt, faire du sport. Ça requinque également. Et puis, quand on dort, notamment pendant la phase de sommeil dite paradoxale, notre cerveau consomme autant d'énergie que s'il était éveillé. Donc, à l'évidence, la fonction biologique profonde du sommeil n'est pas de recharger nos batteries. Alors, quelle est-elle, cette fonction pourtant capitale que l'on partage d'ailleurs avec l'ensemble du règne animal? Eh bien, ce sont les questions que pose cet article du Figaro, questions que n'arrivent pas à trancher les scientifiques. Nous sommes allés sur la Lune, on a mis au point des vaccins contre le Covid en 6 mois, mais on ne sait toujours pas en 2021 à quoi sert précisément le sommeil. Ce qu'on sait en revanche, et c'est là où je vous rejoins Martin, c'est ce qui se passe quand on en est privé du sommeil. En 1963, un certain Randy Gardner, un Américain alors âgé de 17 ans, est resté éveillé 11 jours et 25 minutes dans le but de réaliser un projet scientifique avec ses camarades de classe. Dès le deuxième jour, le jeune homme manifestait des troubles de la mémoire, du comportement, des difficultés de concentration, un ralentissement de la parole, des phases de paranoïa ainsi que des hallucinations. À la fin de l'expérience, Randy a dormi 15 heures d'affilée et il s'est réveillé frais comme un gardon sans aucune séquelle. Mmh. C'est à ce jour l'une des rares expériences de privation de sommeil, car on sait qu'elles peuvent être dangereuses, ces expériences. En 1894, une médecin russe a empêché des chiots de dormir, ce qui a entraîné leur mort, malheureusement. Le sommeil est donc vital.
C'est horrible.
Oui, mais il faut bien tester. Hein,
c'est sur des chiens.
Oui, bon, d'accord, mais bon. Hein.
Oui, donc allez-y, continuez.
Et pourtant, je suis un amoureux des chiens.
Bah, mais
il faut bien qu'on se rende compte de la réalité des choses.
Oui.
En tout cas, ça ne nous explique pas quel est le rôle précis du sommeil. Les chercheurs ont deux hypothèses. La première, c'est que le sommeil permettrait à notre cerveau, c'est très intéressant, d'éliminer ces déchets accumulés au cours de l'éveil. Parce que s'il ne représente que 2% de notre masse corporelle, le cerveau consomme à lui seul 20% de notre énergie. Il produit donc des déchets, des substances qui oxydent nos cellules, ainsi que des protéines, taux et amyloïdes qui entraînent la mort des neurones. C'est la signature notamment de la maladie d'Alzheimer. Le problème avec cette hypothèse, c'est que tous les animaux, les insectes notamment, n'ont pas ce système de nettoyage des toxines, donc ce n'est pas la fonction primaire du sommeil. Ce qui pourrait l'être en revanche, c'est l'homéostasie synaptique. Et là, je vois que je vais vite vous perdre. Alors, pour faire simple, une synapse, c'est la zone où se fait le transfert d'informations entre deux neurones. Or, au cours de la journée, nos synapses grossissent au fur et à mesure que les données s'accumulent. Si cette croissance avait lieu en continu, il n'y aurait tout simplement plus de place dans le cerveau. Donc, comme dans un disque dur sur votre ordinateur, il faut trier, compresser les fichiers et mettre à la corbeille ceux qui sont inutiles. Et ce travail de mise à jour, eh bien, il a lieu pendant le sommeil. Dormir permet à notre cerveau de faire le ménage, de dégonfler les synapses pour qu'il puisse à nouveau transmettre les informations dès notre réveil. Voilà quelle serait la fonction biologique profonde du sommeil. C'est en tout cas la seule hypothèse qui tient la route à l'heure actuelle.
Eh ben, on va retourner se coucher.
Ouais.
Merci beaucoup, Julien. Lefigaro.fr, cet
Absolument.
Article. Merci. Rideau sur le pressing, le dernier de cette année 2021. Mais Martin, on a le plaisir de vous retrouver dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1. On se réveille. Les principaux titres de ce mercredi avec Alban Leprince.
L'épidémie repart à la hausse en France. L'avertissement de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, hier soir. 73 000 cas de Covid recensés en 24 heures. Omicron représente maintenant 20% des contaminations. Le pass sanitaire en entreprise, finalement absent du projet de loi pour lutter contre le Covid, présenté lundi prochain par le gouvernement en Conseil des ministres. Il ne fait pas consensus selon l'exécutif, mais les députés de la majorité pourraient l'introduire par amendement début janvier. Un détenu recherché. Ce matin, il s'est évadé hier soir de l'hôpital de Pontoise dans le Val-d'Oise où il était escorté pour se faire soigner. Un plan a priori bien ficelé devant l'établissement. Une femme a tiré sur l'un des agents pénitentiaires. Il est blessé. Les deux individus ont pris la fuite ensemble.
Europe 1. BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Initiative en France.
Bonjour Marion Barraud.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes conseillère municipale déléguée en charge du budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand. Budget qui a permis l'achat, c'est très récent, d'un camion douche pour les sans-abri. Expliquez-nous.
Oui, en 2018, lors de la première édition du budget participatif, une Clermontoise, une citoyenne, a proposé ce projet dans le cadre du budget participatif. Et donc la ville l'a étudié sa faisabilité et proposé après aux Clermontois et Clermontoises. Et ça a été le projet qui a eu le plus de votes par la population, largement à plus de 4000 votants. Et donc la ville a mis en place ce projet qui a pris un peu de retard avec le Covid, vous vous en doutez, et qui du coup a été inauguré il y a peu et mis en service en septembre.
D'accord. Et ce camion, il ressemble à quoi ?
Eh ben, c'est un camion plus petit, hein. C'est pas un 32 tonnes, un peu plus petit, tout blanc, avec deux portes latérales, une pour entrer, pour poser ses affaires avec un service de lingerie, ensuite une douche, des WC, et on ressort par une autre porte, ce qui fait que du coup, on peut après récupérer ses vêtements par une autre petite boîte. Et en fait, à l'intérieur, on peut trouver tout le confort, on va dire, au maximum pour pouvoir se laver, laver ses vêtements, prendre un peu de temps pour soi, d'hygiène. Du coup, il est assez mobile. Hein. L'objectif, c'est qu'il puisse circuler un peu partout en ville, se poser sur certaines places et que les personnes qui en ont besoin, les sans-abri, puissent venir régulièrement pour se laver.
Et les serviettes et le savon sont fournis, je crois, hein.
Oui, bien sûr, tout est fourni. Il y a aussi 10 douches qui sont programmées en circulation avant de repasser à la mairie pour faire le plein. Et on propose, en fait, c'est un travail qu'on a mené avec plusieurs associations locales qu'il faut fortement citer hein, parce qu'elles sont très actrices sur ce territoire et elles sont vraiment là pour garantir le lien social. Et je pense particulièrement au collectif Pauvreté et Précarité qui actuellement porte sur place ce projet, qui a formé ses salariés, ses médiateurs pour guider, pour conduire le camion et pour accompagner les personnes dans ce projet-là.
Alors les sans-abri qui souhaitent prendre une douche, ils peuvent se présenter sans rendez-vous ?
Absolument. En fait, on essaie d'avoir un rythme. Donc là, pour l'instant, c'est tous les mardis, sur la place des Salins de Clermont-Ferrand, que les gens viennent volontairement. Parfois, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne viennent pas même forcément pour se doucher, mais parce qu'on a installé un stand, l'association a mis du café, du thé, des jus de fruits. Et donc, ils viennent aussi juste pour retrouver un lien qui a un peu été perdu avec les différents confinements.
Ce qui doit être très pratique pour les travailleurs sociaux et les associations, parce qu'on a affaire là peut-être à un public qui ne va pas dans les centres d'accueil.
Oui, c'était la surprise un petit peu. Et la bonne nouvelle pour l'association, c'est qu'en changeant un peu de mode de rencontre, en essayant de trouver des nouvelles solutions à leurs besoins, on se rend compte qu'en effet, on touche un nouveau public qui est un peu déserté depuis quelques années, les circuits classiques. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On recrée du lien, on les accompagne dans des démarches. Et là-dessus, c'est l'effet bénéfique de ce projet-là.
C'est un engin unique en France, ce camion douche ?
Non, il a été d'abord expérimenté à Marseille. En fait, c'est avec la Fondation Honnête. Une première version a été proposée. Et là, nous, on a une deuxième version un peu plus améliorée où on a vraiment réfléchi avec les médiateurs et la Fondation Honnête pour créer un camion encore plus performant en termes aussi d'hygiène, etc. Donc d'abord à Marseille actuellement. Et puis là, deuxième expérimentation à Clermont-Ferrand.
Et vous avez d'autres projets comme ça qui ont été votés par les Clermontois ?
Oui, on se rend compte qu'il y a vraiment deux thématiques dans les budgets participatifs, la question de la transition écologique et aussi celle de la solidarité, et en particulier deux autres projets, les casiers solidaires, où les sans-abri peuvent déposer pendant une journée, plusieurs semaines, les objets précieux, qui souvent est un peu un stress pour eux quand ils doivent aller en lieu pour la nuit, en résidence de nuit ou autre, ou à l'hôtel, ou tout simplement dans la rue. Donc ça a été un projet qui a été proposé et qui a été mis en place il y a peu aussi en parallèle avec le camion. Et on a aussi un frigo solidaire rue Charras à Clermont-Ferrand où les gens peuvent déposer ce qu'ils ont en trop, ce qu'ils ne vont pas utiliser dans ce frigo-là. Et des gens qui en ont besoin peuvent venir se récupérer. Et il y a un deuxième frigo solidaire qui va bientôt être mis en place, plus dans le centre-ville, rue du 11 novembre. Donc on essaye de mailler le territoire avec des solutions pour les personnes qui sont dans la pauvreté.
Voilà, de belles initiatives. Merci beaucoup Marion Barraud de nous avoir présenté, notamment le camion douche en vadrouille, c'est son nom, camion douche pour les sans-abri, que l'on retrouve tous les mardis après-midi, place des Salins à Clermont-Ferrand pour l'instant. On vous souhaite de belles fêtes.
Également, merci beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon début de matinée et bonjour si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 22 décembre et on est ravis de vous accompagner des potrons minés. On va aller notamment au cinéma dans la prochaine demi-heure.
En plein cœur des vacances scolaires, Laurie Choleva nous conseillera deux films à voir en famille. Rendez-vous dans 20 minutes.
Et puis c'est la crainte dans de nombreux foyers à deux jours du réveillon de Noël que la politique s'invite entre le foie gras et la bûche au chocolat.
Oui, à 4 mois des élections présidentielles, c'est effectivement un risque, Julien. Mais c'est pas le seul. Le Covid, le véganisme, le complotisme. Ce moment festif entouré de vos proches pourrait bien se terminer en bataille rangée. Comment survivre à un repas de Noël quand autour de la dinde les opinions divergent ? À suivre, les clés pour survivre de la philosophe Laurence De Villers.
On va prendre les notes.
Oui, c'est C'est passionnant.
Ce dont on va parler surtout pendant le réveillon, comme à chaque réveillon, c'est de la météo. Bah,
c'est pour faire retomber la pression. Ouais, par la météo.
C'est ça.
En tout cas, c'est la journée la plus froide de la semaine.
Oui, alors hier, c'était la journée la plus belle de la semaine. Aujourd'hui, c'est la plus froide avec des gelées quasiment pour tout le monde. Ce matin, on a moins 10 à Brive, moins 8 à Montluçon et Nevers, moins 7 à Clermont-Ferrand, moins 6 à Saint-Etienne, Nancy et Metz, moins 5 à Cherbourg et Belfort, moins 4 à Lille et Strasbourg. Moins 3, ça y est, c'est la première fois de la saison. On a moins 3 à Paris. Première température négative pour la capitale. Moins 2 à Rennes et Perpignan. 3 degrés à Montpellier, 6 à Bastia. Alors cet après-midi, ça reste froid dans le Grand Est avec 0 à Strasbourg, 1 degré à Belfort, 4 à Paris, 5 à Saint-Etienne, 10 degrés à Brest, 14 à Marseille et Nice, 18 à Biarritz et 19 à Pau. Alors ce matin, on a encore quelques grisailles dans le nord-est et dans les vallées d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a des brouillards qui seront givrants dans ces secteurs à cause des températures. Et cet après-midi, nous avons une journée très lumineuse, quasiment comme hier, avec du soleil pour tout le monde, sauf sur le pourtour méditerranéen, où là, les nuages sont un petit peu épais.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Ne pas céder à la panique, Joe Biden refuse de serrer la vis face à la déferlante Omicron. Test et vaccination, voilà sa solution. Coup d'envoi aujourd'hui pour la vaccination des 5-11 ans en France. On verra comment ça se passe en Israël. Là-bas, on vaccine les petits depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et puis, on ne dirait pas comme ça, mais le hip-hop a pas loin de 50 ans. Ça valait bien une exposition. Nous irons à la Philharmonie de Paris.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Que faire face à la déferlante Omicron? On verra d'ici quelques instants qu'en Europe, on opte presque partout pour le retour d'un certain nombre de restrictions. Aux États-Unis, où les cas repartent à la hausse, on met plutôt l'accent sur la vaccination, un peu comme chez nous d'ailleurs. Joe Biden a indiqué ne pas vouloir paniquer. Si on comprend bien, Nicolas Pineau, se faire vacciner et surtout se faire tester, c'est ça la clé.
Oui, d'ici quelques jours, les Américains qui le souhaitent pourront recevoir gratuitement des autotests à domicile. Après une inscription sur Internet, les kits seront envoyés par la poste. Le dispositif est simple et massif. Plus d'un demi-milliard de tests commandés par l'administration américaine. Le président Joe Biden entend ainsi corriger la lenteur des États-Unis en matière de tests, une nécessité face à la reprise de l'épidémie. Ici, le variant Omicron représente déjà 73% des nouvelles contaminations. Mais l'arme la plus efficace contre le virus reste la vaccination, selon Joe Biden. Il a eu des mots très fermes à l'égard des Américains non vaccinés.
Vous avez une obligation envers vous-même, votre famille. Et je sais que je serai critiqué en disant cela, mais envers votre pays, allez vous faire vacciner maintenant. C'est gratuit, facile, et je vous promets que ça sauve des vies.
Le président américain a aussi annoncé le déploiement d'un millier de médecins et d'infirmières militaires pour soulager les nombreux hôpitaux débordés dans le pays. Et Nicolas Pineau, Washington, Europe.
En Allemagne, en revanche, on passe à la vitesse supérieure en matière de restrictions.
Oui, d'ici une petite semaine, les personnes vaccinées ou guéries ne pourront pas accueillir chez elles plus de 10 invités. Ça concerne tout le monde, hein, à l'exception des enfants de moins de 14 ans. En Catalogne, il y a 3 propositions à l'étude. Couvre-feu entre 1h et 6h du matin, 10 personnes maximum là aussi, lors des réunions de famille et une jauge de 50% dans les restaurants et les bars. Au Portugal, le télétravail devient obligatoire pendant 2 semaines. Là également, les bars et les discothèques sont fermés.
Alors on le disait, chez nous, pas de mesure de ce type à cette heure, même si l'épidémie repart à la hausse avec 73 000 cas positifs ces dernières 24 heures.
1 sur 5 vient du variant Omicron. Et dans ce contexte, le couvre-feu en janvier, voire dès le 31 décembre, n'est pas à exclure. Il en sera sans doute question ce matin au Conseil des ministres. Le gouvernement veut d'abord montrer que sa stratégie de vacciner au maximum est la bonne. 2 millions de créneaux seront ajoutés d'ailleurs d'ici la fin de l'année.
Et pour les 5-11 ans, ça débute normalement aujourd'hui.
Oui, vous pouvez prendre rendez-vous dans un centre de vaccination qui accueille des enfants. Attention, ce n'est pas le cas de tous ces centres. J'ajoute que pour se faire vacciner chez un pédiatre, le délai est un petit peu plus long.
Cette vaccination des enfants est un dilemme, on le sait, pour les parents. On va voir ce matin comment ça se passe en Israël.
Oui, parce que là, on a un recul d'un peu plus d'un mois. 12 à 13% d'entre eux ont reçu au moins une dose. Premier bilan avec le professeur Cyril Cohen. Il est directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'Université de Tel Aviv.
Je dirais qu'il y a moins d'engouement que ce que l'on avait connu avec les autres campagnes de vaccination précédentes. On a déjà aussi des enfants qui commencent à recevoir leur seconde dose depuis une semaine. Depuis quelques jours, il y a possibilité de vacciner dans les écoles et on a vu que dans certaines localités, ça a été vraiment un facteur décisif pour augmenter ce taux de vaccination. On est passé dans certaines localités, par exemple, de 1% d'enfants vaccinés à 20-25% d'enfants vaccinés en 2-3 jours. Ça accélère accélère un peu. On regarde aussi ce qui arrive aux États-Unis, par exemple, avec 6 millions d'enfants vaccinés. De là-bas aussi, les signaux qu'on reçoit en général sont des signaux assez positifs, avec pas beaucoup d'effets secondaires.
Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'Université de Tel Aviv, interrogé par Victor Pourchet. Israël, où les soignants, les profs et les plus de 60 ans auront droit à une quatrième dose.
Dans le reste de l'actualité, les cancers de la prostate liés à l'exposition aux pesticides chlordécone, reconnus comme maladie professionnelle.
Oui, le décret est tombé ce matin au Journal officiel. Ça va ouvrir la voie à l'indemnisation des victimes. Le chlordécone avait été autorisé de 72 à 93 dans les bananeraies des Antilles. Il a infiltré les sols pour des centaines d'années. Ça a pollué les eaux et les productions agricoles.
Elle voit une attente colossale à gauche. Christiane Taubira n'est toujours pas candidate à la présidentielle officiellement, mais en tout cas, elle est en campagne.
Oui, l'ex-garde des Sceaux multiplie les sorties. Après Saint-Denis, Cergy, dans le Val d'Oise, une visite centrée sur la jeunesse et la précarité. Écoutez ce reportage d'Alexis de la Fontaine.
Celle qui n'est pas encore candidate est pourtant bien en campagne. Accueillie hier à Cergy par le maire socialiste, la candidate putative est allée à la rencontre d'enfants qui sortent du sport, mais il y a encore du travail pour se faire connaître.
Alors, est-ce que vous connaissez cette dame ?
Non ! Alors, je suis Christiane Taubira, j'ai été députée, puis j'ai été ministre de la Justice.
Et quand une adolescente lui pose la question fatidique, Christiane Taubira garde toute son habileté.
Et vous voulez savoir, c'est quand vous allez vous présenter ?
Me présenter à quoi d'abord ? Tu as 13 ans, quand tu poses une question, il faut qu'elle soit précise.
La présidentielle, c'est un objectif qu'elle caresse secrètement selon son entourage. C'est son troisième déplacement depuis le week-end dernier. Christiane Taubira entend bien mener une campagne éclair pour convaincre les autres candidats de gauche de participer avec elle à une primaire fin janvier. Un plan qui séduit Muriel, socialiste depuis 40 ans.
On est très contents. Moi, je suis socialiste et franchement, là, je suis vraiment déçue. Et là, quand on vous a entendu, ça m'a fait plaisir.
Il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher, confie l'un de ses collaborateurs qui reste optimiste sur la tenue prochaine d'une primaire à gauche.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, Christiane Taubira qui n'apparaît pas dans le dernier sondage Elab, où, en date où Jean-Luc Mélenchon gagne 3 points à 11%. Emmanuel Macron creuse l'écart avec 26% d'intention de vote face à Valérie Pécresse qui perd 3 points à 17%.
La mairie de Paris va porter plainte après la dégradation de la plaque du square Samuel Paty située face à la Sorbonne.
Le mot islamiste dans la mention victime du terrorisme islamiste a été effacé à la bombe. Une atteinte inadmissible à la mémoire de ce professeur. Voilà comment a réagi Anne Hidalgo sur Twitter.
5h36 sur Europe 1. On en vient à cet instant nostalgie. On replonge dans l'ambiance hip-hop.
Ah oui, on n'imagine pas comme ça, mais le mouvement des jeunes du Bronx approche gentiment de la cinquantaine. La Philharmonie lui consacre une exposition que nous fait découvrir Marie Jiquel.
Comme l'impression nostalgique de se faufiler en discothèque. À l'entrée de l'exposition Hip-Hop 360, écran géant et baffle puissante donnent forcément envie de danser, comme le confie Alex, qui est agent de sécurité au sein de la Philharmonie.
Je bouge juste la tête. Je t'ai pas mis ici pour danser. Je bouge la tête, c'est déjà pas mal.
L'événement célèbre les 40 ans de cet art de la rue, longtemps décrié, aujourd'hui convoité par le marché du luxe, qui a débarqué en France grâce aux radios. François Gautret, le commissaire de l'exposition.
Quelque chose que j'ai eu du mal à récupérer, c'est forcément l'affiche du New York City Rap Tour qui arrive en 82, du coup, à l'hippodrome de Pantin. Donc cette affiche Europe 1, la FNAC, il n'en existe pas. On a eu énormément de mal à la retrouver. Cet événement, ça marque vraiment officiellement l'arrivée du hip-hop en France.
Comme à son habitude, la Philharmonie propose à ses visiteurs une immersion totale, une rame de métro taguée, une piste de danse et la possibilité de faire chauffer les platines comme un DJ. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to
lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder. Ça vous plaît, hein?
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça réveille en tout cas.
Hein, on est content. L'exposition, elle va durer jusqu'au mois de mars. On a le temps d'y aller pendant les vacances. Là où on n'ira pas, en revanche, c'est aux Oscars. Ah. Titan, Palme d'Or n'a pas franchi les présélections.
Et puis du foot ce soir, dernière journée de Ligue 1, en tout cas la dernière de 2021.
Oui, avec 10 matchs au programme, un multiplex à 21h et encore pas mal d'enjeux, notamment pour les équipes de bas de tableau, hein, Saint-Etienne, Lorient et Metz.
C'est les Verts qui reçoivent les FC Nantes, Canaries. Les Canaries. Merci beaucoup Lénaïque Monnier pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet, Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 trotteurs qui en découdront sur la distance de 2850 mètres, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic le numéro 10, El Presidente, l'un des trotteurs vedettes du Sud-Est, titulaire de 20 victoires en 65 courses. Et il effectuera un très long déplacement depuis Fuveau dans les Bouches-du-Rhône jusqu'à Vincennes avec de légitimes ambitions. On lui opposera les numéros 14, Enzo de Sarthe, désormais à 100% de ses moyens après deux sages courses de rentrée, 6, Dream to Gis, dont les deux dernières fins de course à ce niveau à Vincennes ne sont vraiment pas passées inaperçues, 12, Désir de Banne, un intermittent du spectacle qui, bien luné, a visiblement les moyens de conclure à l'arrivée de ce quintet. Enfin, les numéros 8, Diablo de Caponnet, 13, Étoile de Kenny, 3, Dream et 9, Eastwood Park peuvent, comme beaucoup d'autres, conclure dans la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 10, 14, 6, 12, 8, 13, 3 et 9.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où, à 5h40, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Un décollage très attendu en Guyane cette semaine, ce sera a priori samedi.
Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Très attendu ce décollage parce que la fusée Ariane 5 va transporter un télescope spatial, une sorte d'origami géant pour scruter l'espace. James Webb, c'est son nom, l'objet le plus cher jamais envoyé dans l'espace, plus de 10 milliards de dollars. Et c'est l'occasion, Pauline, de revenir avec vous sur le début de la saga Ariane, le lancement de la première fusée Ariane 1. Nous sommes le 23 décembre 1979 à Kourou et la tension est à son comble.
Depuis 8 jours, 24 heures sur 24, les équipes du Centre spatial travaillent d'arrache-pied. Il a fallu remettre la fusée en état, car le 15 décembre, le premier lancement a échoué. Échec aussi du programme de la fusée Europa, abandonné 6 ans plus tôt. Ce 23 décembre 1979 est donc décisif pour l'avenir de l'Agence spatiale européenne. Elle doit recoller à la course spatiale, rejoindre les États-Unis et l'URSS.
Nous allons tout de suite faire un point en direct sur le compte à rebours du lancement de la fusée Ariane avec Albert Ducrot et Xavier Collin. Alors, où en sommes-nous maintenant ?
Eh bien, nous en sommes à H-2h30.
Ça veut dire un tir à quelle heure, ça, Xavier ?
15h57, si aucun inconvénient ne vient se présenter.
Mais il va falloir réparer un clapet. Entre deux réservoirs, 200 ingénieurs et techniciens sont affairés, enfermés dans un bunker à 900 mètres du pas de tir de la fusée. Le lancement est donc retardé de 24 heures.
Nous sommes donc le 24 décembre 1979. Pauline, il est 14h13 à Kourou.
Le compte à rebours est lancé, la concentration est extrême, les équipes ont les yeux rivés sur les écrans de contrôle.
3, 2, 1, feu, allumage.
Ça y est, la fusée Ariane a décollé, raconte sur Europe 1 Albert Ducrot.
Les trois étages ne se sont pas contentés de fonctionner. Ils se sont comportés à la perfection. Le système de pilotage s'est révélé à la fois très souple et extraordinairement précis.
Soulagement de tous les ingénieurs. Au sommet de l'État, on se félicite de cette réussite. Les techniciens de Kourou ont donné à la France et à l'Europe une belle leçon de sang-froid, de volonté et de compétence, dit le ministre de l'Industrie André Giraud.
C'est assurément une victoire sur le scepticisme. Je crois que certains se préparaient à manier l'ironie et je crois qu'il est bon que ceci ait été démenti.
L'aventure Ariane peut donc commencer, Pauline.
Et remplir ses objectifs, affirme Roger Légard du Centre national d'études spatiales.
Ariane a été décidée en 1973 pour mettre en orbite, au bénéfice de l'Europe et éventuellement d'autres clients extérieurs, les grands satellites d'application qui transmettent du téléphone, du téléx, de l'observation de la Terre. Et dès 1981, ces premiers satellites pourront être mis en orbite.
Aujourd'hui, la fusée Ariane est la plus sûre du monde. Ariane 1, 2, 3, 4, 5. Le premier lancement d'Ariane 6 est prévu au premier semestre 2022.
Merci beaucoup Pauline Jacquot. C'était le jour où... Il est 5h43 dans un instant quand le Covid et la politique s'invitent à la table de Noël.
Ombline Roche et Julien Pierce
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 22 décembre, J-2 donc, avant de retrouver avec bonheur nos proches autour d'un repas festif. Et cette année, peut-être plus qu'encore, les débats autour de la dinde risquent d'être houleux. Comment faire pour passer un moment chaleureux quand les opinions divergent? Et comment éviter les confrontations?
Oui, comment finalement conserver l'esprit de Noël? Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et auteur du livre « Être quelqu'un de bien » aux éditions PUF. Les politiques appellent ça la théorie de la dinde, selon eux. La période des fêtes est un moment décisif de l'élection présidentielle, mais l'élection d'avril ne va sans doute pas monopoliser la discussion familiale, le vaccin, le pass sanitaire, le climat, le foie gras. Beaucoup de sujets sont déclencheurs de batailles verbales.
La dinde elle-même. Est-ce qu'il faut vraiment faire un Noël en mangeant encore de la viande, avant même le foie gras ? La famille est un endroit où les sujets de dispute peuvent être acharnés et voire violents. Et on a une image de la famille qui est celle de la pacification totale, de la paix. C'est pas vrai et je pense que c'est pas un drame. Les Grecs, par exemple, se représentaient la famille comme quelque chose qui pouvait être le lieu de la tragédie et des fureurs. Donc, je suis pas si choquée que leur repas de famille puisse être un peu houleux. Maintenant, il faut survivre, effectivement.
Alors, la famille, être rassemblée avec les siens, pourquoi ce moment festif, par définition, pourquoi ces fêtes peuvent catalyser les conflits?
Parce qu'on se retrouve ensemble. Donc déjà, c'est assez rare, en fait, d'être tous ensemble autour d'une table. Et je crois que l'erreur qu'on fait, c'est de penser que la famille, c'est l'unité parfaite. Non, on est tous différents, même si on appartient à la même famille. Donc effectivement, le fait de réunir des personnalités si différentes autour d'une même table et avec l'idée que la famille, on doit tous penser pareil et tous bien s'entendre, je pense que ça, c'est le début de l'erreur. La famille, c'est le lieu de la diversité.
Alors les solutions pour, en disant, commencer à désamorcer les conflits dans un premier temps, ça passe par quoi? Par l'élaboration d'un plan de table stratégique?
Alors il y a une passion française pour ne pas s'entendre. Je pense à une idole française en philosophie qui est Descartes. Quand il a publié son texte, qu'on oublie, les méditations de Descartes, il a publié en même temps les réponses aux objections qu'on lui a faites. Vous voyez, ce moment fondateur de la philosophie en France, c'est déjà une empoignade. Je pense qu'en France, en fait, on se passionne d'abord, on discute après. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça en famille. Moi, je pense qu'il y a deux moyens de survivre. Mettre en place des règles très strictes, exactement comme les règles que doivent suivre les hommes politiques. Temps de parole, écoute, ne pas couper la parole. Donc, mettre en place des règles. Et si ces règles ne sont pas respectées, la fuite, l'esquive. Moi, je pense qu'il n'y a pas de troisième voie.
Ce que vous dites aussi, donc, c'est respecter les opinions de chacun, quel qu'il soit, sans tomber dans le piège de la confrontation. Ne pas dire « je t'accuse », mais plutôt « je vais essayer de comprendre ce que tu es en train de me dire ».
Voilà, exactement. Alors, on aime beaucoup le « j'accuse », c'est aussi une tradition française, où on aime beaucoup dire « je ne suis pas d'accord », alors qu'on n'a même pas vraiment saisi pourquoi on n'était pas d'accord ou ce sur quoi on n'était pas d'accord. Je pense que l'effort minimal, et c'est ce qui fait les bons échanges, c'est quand je me dis « mais quand tu dis ça, mais ça implique que, mais ça voudrait dire alors tirer jusqu'à soutenir que, mais… » Vous voyez, c'est entendre l'autre, c'est exactement comme en art martial, on épouse le mouvement de l'autre. On ne va pas l'affronter de face, on est dans la dynamique et l'élan de son mouvement. Vous savez, opinion contre opinion, ça me fait penser au chaud, au froid. Ça n'a aucun intérêt. Ça fait en fait du tiède ou de la confrontation permanente. Moi, je pense que c'est en essayant d'aller là où l'autre est et de l'amener à venir peut-être un petit bout de chemin là où je suis, on peut arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Sinon, en fait, ou on tourne en rond, ou on s'objecte en permanence ses opinions et ça n'avance pas.
Il y a quand même des questions, du coup, à éviter, quoi qu'il arrive, pour ne pas tomber dans soit le piège de la confrontation, soit devoir quitter la table et esquiver.
S'il y a le minimum de ce travail d'écoute, de travail, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'on n'est quand même pas là pour travailler au réveillon, mais cet effort d'entendre ce que dit l'autre, je crois qu'on peut parler de tout. À mon avis, il n'y a pas de sujet tabou quand on a les bonnes conditions. On essaie d'avoir un consensus à peu près toute l'année. Pourquoi ne pas tester autre chose à table? Vous voyez, le consensus, c'est en fait, on ne dit pas grand-chose. Je crois que ce qu'il y a de plus insupportable, c'est répéter des choses qu'on a déjà entendues 1000 fois, qui sont dans l'air du temps, et en fait, qui ne pensent plus. Vous savez, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est pas seulement la dinde, parce que moi, je défends le fait qu'on mange pas d'animaux, mais c'est les pensées toutes faites. Vous voyez, ces pensées qui pensent plus. Moi, je préfère une pensée bien à soi, un peu radicale, polémique, ou toute bête ou naïve qu'une pensée qui n'est pas la sienne. Moi, c'est ça qui m'offusque le plus.
Avoir son propre avis, c'est ça l'important.
Avoir son propre avis, absolument.
Des discussions vivante.
Vivante.
Merci. Merci beaucoup, Laurence de Villers, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes philosophe et vous signez le livre « Être quelqu'un de bien » aux éditions PUF. Merci infiniment et je vous souhaite de très bonnes fêtes.
Très bonnes fêtes à vous aussi et ben, vous avez un kit de survie.
Merci infiniment.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h49 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité de ce mercredi avec Alban Le Prince.
20% des 73 000 cas de Covid détectés hier liés au variant Omicron. La souche progresse de manière fulgurante en France. Aux États-Unis, il représente 73% des contaminations. Mais pas de panique, dit Joe Biden, le président américain qui n'adopte pas de nouvelles restrictions. En Europe, Omicron inquiète. En Allemagne, ce sera 10 invités vaccinés maximum pour le nouvel an. Les bars fermeront à 21h en Finlande vendredi. Reconnaissance attendue depuis longtemps aux Antilles, c'est maintenant chose faite. Les cancers de la prostate liés à l'exposition au chlordécone, un pesticide, sont désormais reconnus comme maladie professionnelle. Un décret ce matin au Journal officiel.
C'est un grand classique des fêtes de fin d'année, aller au cinéma en famille.
Encore faut-il savoir quels sont les bons films à aller voir et c'est là que vous intervenez, Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Ambline, bonjour Julien.
Bonjour Laurie, vous avez donc dans votre hôte de Noël une sélection familiale ?
Exactement, et oui, on est déjà à quelques jours de Noël, donc des animaux qui chantent, ça tombe bien, on est dans le thème, et ça s'appelle Tous en scène 2. Alors un film d'animation signé par le studio Illumination, à qui l'on doit déjà Moi moche et méchant, ou encore Comme des bêtes, tout ça pour dire qu'ils savent quand même plutôt bien faire. Alors pour ce deuxième épisode de Tous en scène, cette fois-ci, la joyeuse bande veut monter un spectacle dans une ville aux faux airs de Las Vegas. Ils vont devoir convaincre le terrible producteur Jimmy Crystal qui savent chanter et danser aussi bien que les têtes d'affiche de sa salle de concert.
Musique !
Nous voilà sur le point d'emmener notre spectacle dans la capitale mondiale du divertissement.
Je vous donne 3 semaines pour un show parfaitement huilé.
Nous ne pouvons pas laisser cette brute nous voler nos espoirs et nos rêves.
Du cran, de la foi, voilà ce dont vous avez besoin maintenant.
Bonsoir, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à une représentation unique marquant le retour du légendaire Clay Calloway.
Clay Calloway.
Oui, donc Clay Calloway, c'est la star, hein, vous l'aurez compris. Parmi les voix françaises, on retrouve l'humoriste Lola Dubini, Gérard Lanvin et puis aussi Jennifer qui incarnait déjà Rosita, la maman truie dans le premier film. Et je peux vous dire qu'elle a adoré faire le deuxième.
Retrouver ce personnage de Rosita, c'était vraiment une récréation. Ça demande de la rigueur et de la discipline parce qu'il y a une synchro quand même, il y a quand même du travail. Mais c'est une vraie bouffée d'oxygène, comme quand je vais voir un dessin animé au cinéma ou que je le regarde à la maison. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est un exercice qui a été vraiment très plaisant.
Et puis le grand méchant du film, c'est Damien Bonnard qui joue donc le producteur Jimmy Crystal. Enfin, grand méchant, pas si méchant. Écoutez.
C'est vrai que tout le monde me dit qu'il est méchant, mais parce que je crois qu'il a quand même une vraie part de sensibilité, parce que quand même il est là pour aider des artistes. Il est là pour, voilà, pour donner les moyens aux gens d'accéder à leurs rêves. Alors c'est vrai qu'il le fait des fois par des moyens un peu violents, qui menacent un peu, mais tout ça c'est pour motiver les gens. Hein. Toujours. C'est en menaçant bien les gens, on les motive suffisamment.
Voilà pour Tous en scène de Laurie. Dans un tout autre registre, un feel-good movie sur le régime.
Mais oui, de et avec Charlotte de Turckheim. Alors près de 9 ans après la sortie de Mince alors, qui avait rassemblé près d'1,5 million de spectateurs dans les salles, Charlotte de Turckheim revient avec la même recette, c'est-à-dire un film bienveillant, drôle, qui prône l'acceptation de soi. Alors cette fois, son personnage d'Isabelle et sa nièce ont ouvert une cure jeune et détox. C'est plus jeune et joli, mais c'est à peu près la même chose, à laquelle donc participe un groupe de personnages attachants ou en couleur qui vont en fait devoir affronter leurs peurs, prendre soin d'eux et puis surtout apprendre à s'aimer.
Bonjour.
On est très heureuse de vous accueillir dans notre nouveau centre de jeûne et de détox.
Oh la vache!
Mais t'as fondu comme beurre au soleil!
J'ai perdu combien?
On peut s'embrasser avant de passer à la pesée?
Allez, 1, 2...
J'ai le trac, je te raconte pas.
T'inquiète, les gros c'est pas ce qui manque.
3. On dirait du vomi.
Ça va nettoyer vos intestins.
Mais on dirait l'eau de l'aquarium là.
Je suis là pour faire un jeûne, je préférais me taper un jeûne de 25 ans.
On est là pour passer du bon temps ensemble.
Non, on est là pour maigrir. Si je veux passer du bon temps, je me fais un plateau de fromage, tu vois.
On peut vivre sans être toujours dans un rapport de séduction, quand même.
Ah bah grave, hein, la preuve.
Un quito.
J'adore déjà cette cœur.
À quoi ça sert d'être mince? Ça va pas empêcher Carlos de me quitter.
Dans ton cas,
Le problème, c'est peut-être pas le poids.
Voilà, donc un film très agréable et positif.
Mince alors, deux Charlotte de Turckheim et Tous en scène 2. Voilà donc deux films que vous nous conseillez cette semaine. Merci beaucoup, Laurie Choleva.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1, dans un instant, la météo, le journal. Fabrice Lafitte, bien sûr notre réalisateur, ouais. Et puis un dilemme.
En grande forme ce matin, dilemme, celui qu'ont des millions de parents. Faut-il vacciner nos enfants contre le Covid? Le conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale doit donner son feu vert dans la matinée. Dernier verrou avant les premières injections qui pourraient avoir lieu dès cet après-midi et plus probablement dans les jours qui viennent. Vacciner les 5-11 ans va-t-il avoir un impact sur l'épidémie? Est-ce que ça a un intérêt pour les enfants, sachant que les formes graves sont rarissimes dans cette classe d'âge? Et plus largement, est-ce que la stratégie du tout vaccin est la bonne face aux très contagieux variants Omicron? Autant de questions qu'on va poser dans une dizaine de minutes à un médecin qui n'a pas sa langue dans sa poche, l'urgentiste Gérald Kierzek. On écoutera ensuite votre partition, Omblin.
Une voix soul et blues à la Ray Charles et un corps agité de convulsions rock. Joe Cocker à la fin des années 60, le récit dans 20 minutes.
Anissa Dadi, vous nous racontiez il y a une demi-heure de cela que c'est la journée la plus froide de la semaine. Oui. Et en plus, il y a des nuages qui arrivent dans le sud.
Bah oui, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Malheureusement, pour nos amis du sud, en Corse, du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur, sur tout le pourtour méditerranéen et jusqu'au sud de la vallée du Rhône. Même les Cévennes sont concernées. Le ciel reste nuageux toute la journée, avec même des averses en Corse. Et puis le vent d'autant qui se lève et qui va souffler jusqu'à 80 km/h. Alors partout ailleurs, c'est vrai qu'on a un ciel quand même bien dégagé. Alors c'est la journée la plus froide certes, mais c'est encore une journée très lumineuse aujourd'hui. On a encore quelques brouillards ce matin sur les plaines d'Alsace jusqu'à la région lyonnaise, en passant évidemment comme d'habitude par le Val-de-Saône. Sur les Pays de la Loire et les vallées auvergnates, là aussi on a des brouillards ce matin, et avec les températures négatives, soyez prudents sur les routes, les brouillards sont givrants. Dans l'après-midi, je vous le disais, donc le soleil va reprendre le dessus, sauf au bord de la Méditerranée. Moins 10 à Brive, moins 8 à Charleville-Mézières, moins 7 à Clermont-Ferrand, moins 6 à Colmar et Rouen. Couvrez-vous ce matin, moins 5 à Limoges et Belfort, moins 4 à Strasbourg, moins 2 à Rennes et au Havre. On a quasiment que des températures négatives, moins 3 à Paris et Lyon, 0 à Quimper, 5 à Nice, 6 à Bastia. Et cet après-midi, on aura 0 à Strasbourg, 4 à Paris et 19 à Pau.
Il fait froid donc. Merci beaucoup Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le mercredi 22 décembre. Très bon réveil à tous, il est 6h. Et vous, allez-vous vacciner votre enfant? La campagne doit démarrer aujourd'hui pour les moins de 11 ans. Rendez-vous dans les centres de vaccination et chez votre pédiatre. Mais attention, tous n'ont pas reçu leur dose. Pour les adultes, la vaccination sera bientôt la condition pour obtenir son pass. Le projet de loi sera présenté lundi à l'occasion d'un conseil des ministres exceptionnel. Le pass vaccinal sur votre téléphone ou sous la peau grâce à une micropuce. C'est l'invention d'une entreprise suédoise. Mode d'emploi dans ce journal. Et puis, à deux jours du réveillon, vous séchez toujours sur votre menu de Noël. Pas de panique, Maude Descamps nous emmène au marché de Rungis. Reportage.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Le chiffre fait partie des records de la pandémie. 145 enfants hospitalisés en France à cause du Covid. Les plus fragiles peuvent se faire vacciner depuis la semaine dernière. Pour les autres, près de 6 millions, les injections doivent démarrer aujourd'hui, au moins dans les centres de vaccination. Chez les pédiatres, la campagne ne commencera que dans quelques jours, le temps de recevoir les doses, explique Brigitte Viret. Elle préside le syndicat national des pédiatres français.
Nous pourrons vacciner les enfants, mais nous ne pourrons pas le faire dans l'immédiat, puisque nous recevrons les doses de vaccins uniquement en fin de semaine prochaine, puisque nous devons les commander et que le délai est un petit peu long pour les obtenir. Le problème, c'est qu'à chaque fois, nous ne pouvons commander qu'un seul flacon de vaccin, donc nous ne pouvons pas faire plus de 10 doses de vaccin. Faire une vaccination de masse quand on ne reçoit qu'un seul flacon de vaccins par semaine, eh bien on va pouvoir avancer très très lentement. On demande aux pédiatres de vacciner ou aux médecins généralistes dans leur cabinet, on leur demande de vacciner, mais on ne fournit pratiquement pas en flacons.
Brigitte Viret, présidente du syndicat national des pédiatres français.
Une vaccination chez les enfants qui ne sera pas obligatoire et qui ne conditionnera pas l'obtention d'un pass sanitaire, et ce contrairement aux adultes.
Oui, le gouvernement accélère d'ailleurs l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal. Un texte présenté non pas en janvier mais dès lundi lors d'un conseil des ministres exceptionnel. 73 000 nouvelles contaminations en 24 heures, une sur cinq liées à Omicron. Face à la propagation du variant, l'exécutif réfléchit d'ailleurs à l'instauration d'un couvre-feu après le nouvel an.
Des restrictions déjà acté en Allemagne, le nouveau chancelier Olaf Scholz a pris la parole hier soir. Écoutez.
Les futurs événements privés seront limités à un maximum de 10 personnes. Bien sûr, cela concerne tout particulièrement la Saint-Sylvestre. L'heure n'est donc plus aux fêtes et aux soirées en grand nombre. Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas comptabilisés dans cette limite de 10 personnes, comme pour l'an dernier. Ensuite, les clubs et discothèques seront fermés jusqu'à nouvel ordre, ce qui rendra plus difficile la propagation du virus. Par ailleurs, les regroupements publics ne sont plus autorisés. Cela s'applique notamment aux matchs de football. Et dans le même temps, il y aura une interdiction totale de se rassembler le soir du nouvel an.
Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz qui s'exprimait hier soir.
Omicron, sept lettres qui font trembler l'Europe. À nos frontières en Espagne, le variant est quasiment majoritaire. Record de contamination aussi en Finlande où les bars fermeront plus tôt à la veille de Noël. La Suède, elle, élargit l'usage du pass vaccinal.
Un pass qui pourrait bientôt être implanté sous la peau via une puce. C'est en tout cas le projet développé par une entreprise suédoise. Une invention sur le point d'être commercialisée. Wilfried de Villers.
Une puce dans la main ou dans l'avant-bras, une puce de la taille d'un grain de riz qui stocke toutes les informations du pass sanitaire. Une invention de la start-up suédoise Disruptive Subdermals, spécialisée dans les implants à micropuces. Le fonctionnement est très simple, c'est le principe du sans contact, la même technologie utilisée pour les paiements par carte bancaire. En un geste, la puce s'active et délivre les données du pass. Plus besoin de son téléphone, plus question de QR code. Un système impossible à pirater ou à géolocaliser selon la start-up. La puce ne transmet aucun signal et n'a pas de batterie. Pour l'activer, il faut qu'elle entre en contact avec un capteur spécifique. Plusieurs employés cobayes de la société ont déjà effectué l'opération. Elle est actuellement en phase de test en vue d'une commercialisation. Prix estimé, une centaine d'euros.
Wilfried de Villers. C'est un scandale qui a alimenté la colère de la population antillaise, celui du chlordécone. Les cancers de la prostate liés à l'usage de ce pesticide sont désormais reconnus comme maladies professionnelles. Le décret vient tout juste de paraître au journal officiel et il ouvre la voie à une indemnisation des victimes.
6 heures passées de 4 minutes sur Europe 1. C'est un coup d'accélérateur pour le développement de l'hydrogène en France. 6 nouvelles stations-service vont être installées en Ile-de-France.
Et c'est la société Aisetco qui vient de remporter l'appel d'offres, un consortium constitué d'Air Liquide, Total et Toyota. Un investissement de près de 40 millions d'euros pour démultiplier la capacité de distribution du pays, indispensable à l'arrivée des véhicules hydrogène. Aurélien Fleureau.
La quatrième station hydrogène de région parisienne sera inaugurée début 2022 et les 6 prochaines sont donc déjà financées. Elles vont permettre de distribuer une tonne d'hydrogène par jour et 2 seront équipées d'un électrolyseur pour produire l'énergie de manière décarbonée. Un changement d'échelle, explique Loïc Voisin, le PDG de Aisetco.
Ça représente près de 10 fois la capacité de distribution d'hydrogène installée aujourd'hui. Les véhicules d'hydrogène commencent à être produits et l'infrastructure doit absolument être renforcée. Il y a une demande qui va croître de manière exponentielle, en particulier dans les agglomérations françaises et même européennes, avec l'instauration de zones à faible émission dans les villes.
Une accélération qui se fait dans le cadre du plan France Relance avec plus de 13 millions d'euros apportés par l'ADEME. Jérémy Almosny en est le directeur en Ile-de-France.
Là, on va avoir une subvention sur le projet destiné à financer la production d'hydrogène à partir d'électrolyse, les stations de distribution et les véhicules comme par exemple des engins de voirie, des bennes ordures ménagères ou encore ce qui va concerner les transports de voyageurs.
Mais aussi des taxis Hype qui seront la vitrine de cet écosystème hydrogène en place pour les JO de Paris 2024.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Un détenu évadé de la maison d'arrêt d'Ony dans le Val d'Oise. L'homme de 28 ans a profité d'un trajet vers l'hôpital pour prendre la fuite grâce à l'aide de complices, notamment la compagne du prisonnier. Un agent pénitentiaire a été blessé par balle. Son pronostic vital n'est pas engagé.
J-2 avant le réveillon de Noël. C'est l'heure des derniers préparatifs pour votre menu de fête, à moins que vous soyez en panne d'inspiration.
Alors plutôt huître ou saumon, chapon ou dinde et pourquoi pas une sauce à la truffe, c'est très bon. En tout cas, prenez des notes. Dans les allées du marché de Rungis, Maud Descamps nous propose un menu d'exception. Reportage.
Allez, on va commencer par une halte au pavillon de la Marée.
Qu'est-ce qu'on a là devant nous?
Donc c'est ce qu'on appelle un homard européen. Fait 3,5 kg. Ça, en ce moment, ça se vend 50 euros du kilo hors taxe.
Allez, je vous propose maintenant d'aller jeter un petit coup d'œil chez les spécialistes du foie gras, mais pas que.
Dites donc, ça sent bon chez vous, là.
J'ai préparé un plateau de truffes, justement, dans le début de la saison de la truffe Mélanosporum. Donc, la truffe noire, c'est un produit extraordinaire, qui est sur l'étape de fête, mais surtout qui sera dans sa plénitude en janvier-février.
Et alors, on la déguste comment, là, pour les fêtes, hein?
On peut soit la cuire modérément ou la laisser se réchauffer au contact des aliments ou alors la râper crue.
Alors là, on remonte les allées qui sont remplies de fromage.
Pour les fêtes, on vend beaucoup de fromage de vache farci à la truffe. Et ça, c'est un fromage qui est fabriqué par un client à nous qui est meilleur ouvrier de France. Ça s'appelle le diamant noir. Bah, c'est des fromages que vous trouvez chez le crémier à entre 70 et 80 euros le kilo. Ouais.
On va terminer quand même par une petite touche sucrée, mais légère. Hein.
Ce qu'on a devant nous, c'est évidemment le litchi français, puisqu'il vient de La Réunion. Bon, bien sûr, il y a tous les agrumes, hein, et Dieu sait si on a le choix. Mais le kaki, ça change un petit peu, donc c'est assez agréable aussi, donc il faut varier les plaisirs.
Bon, je pense qu'on est au point, là, sur le menu de fête. Je vais aller prendre un petit café, là, quand même, pour digérer tout ce que j'ai goûté pour vous.
Alors, un petit café, même si à Rungis, à cette heure-là, 6h07, on est déjà au plat de résistance, voire même au dessert, hein, je pense.
Ouais. Bon, petite bonne balle
ouais,
en tête, là.
À cette heure-là, bien sûr, bon,
moi, je suis partant. Allez, je vous rejoins. Merci beaucoup, Romain Oquet, pour ce journal.
Il est 6h08, on passe au sport. Le journal des sports avec vous, Martin Lange. Et la Ligue 1 va clore l'année 2021 ce soir.
Oui, 19e et dernière journée de la phase aller avec un multiplex. Toutes les équipes seront sur le pont à 21h, à commencer par le leader Paris qui se déplace à Lorient sans Mbappé suspendu. De son côté, le dauphin marseillais reçoit Reims au Vélodrome. Ça sera aussi la grande première en Ligue 1 pour Pascal Duprat avec Saint-Etienne qui accueille Nantes.
Et il y a un club, Martin, qui est pressé d'en finir avec cette année 2021, c'est Lyon.
Oui, l'OL qui reçoit Metz ce soir, des Lyonnais en panne de résultats depuis plusieurs semaines et qui doivent en plus gérer les débordements de leurs supporters, des débordements qu'a vécu au plus près leur ancien entraîneur Bruno Genesio, aujourd'hui à Rennes. Il appelle à une très grande fermeté face aux supporters violents.
J'ai reçu, après un match nul à Chypre, des menaces de mort sur mon téléphone, puisque mon numéro avait été divulgué sur Twitter. 400, 500 messages que j'ai encore, avec les numéros identifiés. J'ai porté plainte, il n'y a eu aucune suite. Peu importe que ce soit à Lyon, à Marseille, à Rennes ou ailleurs, je pense qu'il y a eu un gros laxisme de la part des pouvoirs publics, peut-être de nos instances aussi sportives, et qu'il est temps que ça cesse et qu'il faut prendre enfin les décisions qui s'imposent.
Rennes qui, de son côté, se déplace à Monaco ce soir.
Une journée de Ligue 1 marquée par le Covid.
Oui, notamment cette rencontre entre Bordeaux et Lille, hein, qui pourrait être reportée. Les Bordelais sont frappés de plein fouet par une vague de contamination. Déjà 14 cas confirmés. En Allemagne, hein, le gouvernement a annoncé hier que les matchs de Bundesliga se tiendraient désormais à huis clos. Enfin, pour être complet, sachez qu'Ajaccio a remporté hier le titre honorifique de champion d'automne de Ligue 2. Vainqueur de Grenoble 1-0, hein, les Corses terminent premier de la phase aller.
L'AC ou le Gazélec ?
L'AC. Le Gazélec qui n'est plus en Ligue 2.
C'est noté.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du rugby et une triste nouvelle, hein, le troisième ligne international Kevin Gourdon a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière. À 31 ans, le Rochelais souffre d'un problème cardiaque. Du ski avec le géant féminin de Courchevel hier soir, victoire de l'américaine Michaela Schifrin et cinquième place pour la française Tessa Vorley. Ce soir, place au slalomeur en Italie, le français Clément Noël visera la victoire. Et puis un mot de natation pour finir, les championnats du monde en petit bassin se sont clos hier et pas de nouvelle médaille pour l'équipe de France. Les Bleus quittent donc Abu Dhabi avec une seule breloque.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
C'est la question du jour et qui va animer nombre de réveillons à n'en pas douter. Faut-il vacciner nos enfants contre le Covid? Les premières injections pourraient avoir lieu dès cet après-midi. On en parle dans une minute avec le médecin urgentiste Gérald Kerzek. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité Julien est médecin urgentiste à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Paris.
Bonjour Gérald Kerzek.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Alors que cet après-midi devrait débuter la campagne de vaccination des 5-11 ans, vaccination facultative, je précise. Après le comité français d'éthique et la haute autorité de santé, il ne manque plus que le feu vert du conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale. Il est attendu ce feu vert dans la matinée. Docteur, question simple, faut-il vacciner ces enfants contre le Covid s'ils sont en parfaite santé ainsi que leur entourage ?
Bah, vous l'avez dit, c'est une étape supplémentaire. Actuellement, la vaccination, elle était réservée à des enfants qui avaient des comorbidités. Et il y avait une logique, c'est-à-dire quand vous êtes fragile, vous risquez de faire une forme grave. Et donc, c'était intéressant de vous protéger, quel que soit votre âge, avec la vaccination qui protège non pas de la transmission, mais des formes graves. Là, c'est une étape supplémentaire avec des enfants en parfaite santé qui ont quasiment zéro risque, pour ne pas dire zéro risque de forme grave et de décès. Donc, le bénéfice individuel, il est beaucoup plus discutable. Et de l'autre côté, il y a le risque, alors les risques à court terme des vaccins, on commence maintenant à avoir ces risques maîtrisés. Ils sont pas nuls, ces risques-là. On sait les risques cardiaques, de myocardite, de péricardite. Mais surtout pour les enfants, moi je pense qu'il faut jouer sur l'immunité naturelle. Il faut laisser ce virus circuler de façon à ce que les enfants puissent se contaminer. Ils ne font pas de forme grave. Et à ce moment-là, ils développent une immunité naturelle qui est stérilisante et bénéfique pour tout le monde. Parce qu'ils vont faire des anticorps et des anticorps qui vont empêcher de transmettre le virus.
Vous nous dites risque quasi nul de forme grave pour les enfants. Il y a quand même eu 145 enfants de moins de 10 ans qui ont été hospitalisés rien qu'hier, dont 27 en réanimation. C'est du jamais vu depuis le début de la pandémie. Alors est-ce que le variant Omicron change la donne ?
Alors, il faut être toujours prudent parce que le variant Omicron, il faut regarder un peu ce qui se passe. On n'a pas de recul. Le seul recul qu'on ait, c'est l'Afrique du Sud. Il s'y passe pas grand chose. Et c'est l'Angleterre où on voit qu'il y a beaucoup de contamination, mais finalement peu d'hospitalisation et pas plus de décès. Et le profil des patients reste le même. Qu'il y ait des enfants qui soient hospitalisés ou qu'il y ait, malheureusement, et c'est toujours un drame, quelques enfants qui vont en réanimation ou qui décèdent avec des comorbidités. Ça, malheureusement, j'allais dire, c'est le lot chaque année avec même la grippe. Un virus comme la grippe, on sait qu'il y a des jeunes patients qui vont malheureusement faire des formes graves. Alors, quand ça sort dans les médias, c'est toujours insupportable, c'est toujours une puissance émotionnelle terrible. On dit, oulala, j'ai des enfants. Mais regardez de l'autre côté, si on fait une vaccination massive des enfants, plus on va augmenter le nombre, plus on risque d'avoir un certain nombre, par exemple, d'effets secondaires. Et puis, le principe de précaution dont on parle en écologie, moi, j'aimerais bien qu'on le mette aussi sur la table en termes de santé. Quid, dans 5 ou 10 ans, personne n'en connaît les conséquences.
D'accord, mais je précise que les données qui nous viennent des États-Unis, on vaccine les 5-11 ans depuis début novembre sont très rassurantes. Il n'y a eu que 8 cas de myocardite légère sur 7 millions d'injections.
Bien sûr, mais le profil des enfants n'est pas le même. C'est-à-dire que la balance bénéfice-risque n'est probablement pas la même aux États-Unis, avec des enfants qui souffrent notamment d'obésité et qui sont à forme grave avec un risque supplémentaire. Donc attention à ces comparaisons internationales.
Donc pour vous, les enfants n'ont pas à payer, entre guillemets, pour les quelques 5 millions d'adultes qui refusent toujours de se faire vacciner en France ?
Ah oui, enfin je pense que personne n'a à payer pour des gens. Enfin encore une fois, chacun est libre. Je pense qu'il faut vacciner quand on a un risque de forme grave. Il faut aller chercher ces Français qui ne se sont pas fait vacciner. Je rappelle que plus de 95% des gens en réanimation ont plus de 65 ans, que les patients obèses sont des gens très à risque. C'est ces patients-là qu'il faut aller chercher, vacciner et convaincre. Et les enfants, effectivement, ne doivent pas être les boucs émissaires. J'allais dire une nouvelle fois. Rappelez-vous, depuis le début de cette crise, on a l'impression que ce sont eux qui sont le moteur de l'épidémie, que c'est à cause d'eux, que c'est eux qui contaminent les grands-parents. Donc encore une fois, on ne doit pas leur faire payer les conséquences de cette pandémie.
Je rappelle, parce que c'est important, que la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans n'est pas obligatoire, comme pour les adultes, même si dans les faits, cette liberté est fortement menacée avec la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Le gouvernement veut d'ailleurs accélérer à ce sujet face à la progression du variant Omicron, projet de loi présenté lundi prochain. C'est une bonne stratégie selon vous, docteur ?
C'est une stratégie du tout vaccinal. On voit bien que le gouvernement mise tout sur le vaccin. Moi, je pense que c'est une arme importante pour les gens à risque. Ce n'est pas la seule arme. Et on l'a vu parce que les contaminations continuent. Attention, les contaminations et les vagues, on parle de 5e, 6e vague, je ne sais même plus à quel numéro on est. C'est une vague de cas positifs. Ce n'est pas une vague de gens malades. Les hospitalisations actuellement sont dans des limites acceptables. On voit bien aussi en Angleterre, et ça va être un bon modèle, qu'il y a une décorrélation entre les cas positifs et les hospitalisations qui ne bougent pas. La stratégie vaccinale, elle n'empêche pas les contaminations. Donc, elle n'empêche pas les gestes barrières et il faut à tout prix garder ces gestes barrières, s'auto-tester quand on va, par exemple, en famille. Ça, ce sont des réflexes de base. Mais tout miser sur le vaccin, à mon sens, c'est plus une stratégie politique et une décision politique de dire j'ai une arme, je l'utilise, comme ça j'ai protégé tout le monde, qu'une réelle efficacité sur la vague. On voit très bien que la vague d'Omicron, elle va progresser, elle va monter, probablement plus de 100 000 cas et elle va redescendre.
Est-ce qu'elle va nécessiter, par exemple, le retour du couvre-feu, selon vous ?
Je pense que le couvre-feu ou le confinement sont des mesures un peu archaïques et qui sont des mesures qui n'ont pas forcément une efficacité. Ça a été des mesures d'urgence en mars 2020. En tout cas, la situation actuelle sanitaire ne le justifie pas. Quand vous avez 3000 patients en soins critiques, je rappelle qu'on a 19 600 lits de soins critiques. Ce ne sont pas que des malades de réanimation. Puis moi, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que on est en train de dire on a un problème avec l'hôpital depuis 20 mois. À ce moment-là, si c'est vraiment l'hôpital le maillon faible, et c'est le maillon faible, mais pas pour des raisons de Covid, pour des raisons, chaque année l'hôpital a un manque de lits, manque de bras, etc. Eh bien, il faut renforcer cet hôpital, parce que depuis 20 mois, on entend, on n'a pas assez de lits, etc. Qu'est-ce qui a été fait sur le renforcement de l'hôpital? Pas grand-chose.
Gérald Kierzek, vendredi dernier, Jean Castex a prononcé cette phrase. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. Ce sont des mots forts. Est-ce qu'ils ont une réalité médicale?
Non, et puis du côté du des soignants, il n'y a pas de discrimination ou pointer du doigt telle ou telle catégorie de la population. Je pense qu'il faut être dans la pédagogie. En plus, la petite musique qui est de dire c'est de la faute soit des enfants, soit des non-vaccinés, alors qu'il y a des raisons structurelles à ce que l'hôpital craque. On voit bien qu'actuellement, les malades qui sont hospitalisés, ce n'est pas forcément d'abord des malades Covid. Hein. Le problème de l'hôpital, il est au-delà du problème Covid. Donc je ne vois pas en quoi pointer du doigt des non-vaccinés va changer ce problème structurel de l'hôpital. Et puis attention aussi au message contre-productif en termes de prévention. On a l'impression, et ça a été l'erreur ces derniers mois, de dire vous êtes vacciné, vous ne serez pas contaminé, vous pouvez relâcher les gestes barrières. Et c'est très ancré dans la tête des Français. En disant si je me vaccine, je peux relâcher mes pratiques. Donc j'allais dire c'est peut-être même l'inverse, c'est peut-être même les vaccinés qui font peut-être courir des risques.
Le doublement des heures supplémentaires à l'hôpital, vous en pensez quoi, docteur ?
Bon, j'en pense que ça ne changera pas grand-chose, de même que la mesure qui avait été proposée là, par l'assistance publique hôpitaux de Paris de racheter 2000 euros la semaine de congé. On voit bien que les personnels sont épuisés. Si l'hôpital était vraiment dans une situation catastrophique avec un afflux de patients, on n'achète pas les soignants, ils reviennent d'eux-mêmes. Donc le problème, c'est qu'on est dans une situation d'épuisement et c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit.
Donc les plans blancs qui sont déclenchés partout en France, c'est excessif selon vous ?
Ah ben les plans blancs, ce ne sont pas des plans blancs liés à une situation catastrophique ou à un afflux de malades. Ce sont des plans blancs utilisés par les équipes administratives, par les directions des ressources humaines, pour pouvoir mobiliser, annuler des congés, prendre des infirmières de tel ou tel service et les remettre dans un service où on en a besoin. Donc ce sont des plans blancs qui ont été détournés de leur utilisation. Un plan blanc, faut le rappeler, c'est pour une catastrophe, un attentat. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Quand vous voyez le CHU de Bordeaux, moi j'attends d'avoir les chiffres de Covid plus et de Covid moins, chiffres qu'on n'a pas, mais on voit bien que c'est pas un débordement des malades Covid. Le Covid, c'est le prétexte finalement à une incurie managériale, mais cette incurie, elle est là depuis des années.
Merci Gérald Kierzek d'avoir répondu à mes questions ce matin, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu de Paris. Je donne le titre de votre dernier livre à potasser avant le réveillon, Coronavirus, comment se protéger. C'est aux éditions Archipoche. Très bonne journée et passez de belles fêtes.
Merci à vous.
Il est 6h20 sur Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Et ce sont les principaux titres de ce mercredi, Alban Le Prince.
Pas de passe sanitaire au programme dans les entreprises. Pour le moment, faute de consensus suffisant, l'exécutif ne l'intégrera pas dans le projet de loi présenté lundi prochain au Conseil des ministres. Les députés de la majorité pourraient en revanche le faire via un amendement. L'inquiétude grandit à deux jours du réveillon. 73 000 cas de Covid en 24 heures en France, dont 20% d'Omicron. Face à la flambée de l'épidémie, l'exécutif pourrait prendre de nouvelles mesures. Un homme activement recherché. Ce matin, il s'agit d'un détenu de la prison d'Ogny dans le Val d'Oise. Il s'est évadé hier alors qu'il était transporté à l'hôpital de Pontoise. Une femme a tiré sur l'un des agents pénitentiaires, le blessant. Les individus ont pris la fuite.
On conclut cette petite matinale, comme chaque matin, avec votre partition, Omblin, consacrée à celui qui a inventé le genre rock soul, Joe Cocker, disparu le 22 décembre 2014.
Il existe peu d'artistes qui peuvent se targuer d'être à l'origine d'un style, Julien. Il faut dire que le rock soul existait uniquement quand Joe Cocker chantait, découvert à l'âge de 25 ans. La voix de ce Britannique blanc sonnait comme celle d'un homme noir, buriné par la vie dans le sud des États-Unis, un timbre rock semblable à celui de son idole Ray Charles. Pack up all my cares and woe, feeling low. Here I go, I say bye.
Avant de devenir l'un des artisans de la bande-son des années 60, Joe Cocker déambule dans le milieu de la musique au cœur de l'Angleterre ouvrière.
Il grandit à Sheffield, joue du rock et du rhythm and blues à temps partiel entre les petits boulots et se contente d'une notoriété locale. Sa voix est déjà populaire et sa gesticulation convulsive, comme agitée de spasmes, les maisons de disques gardent un œil sur lui. Membre de divers groupes, Joe Cocker finit par fonder le Grease Band qui va bientôt l'accompagner sur les terres du Nouveau Monde. Et c'est une rencontre avec le producteur Denny Cordell qui va s'avérer décisive.
Nous sommes en mai 1968. Joe Cocker enregistre son tout premier album et c'est ce Denny Cordell qui lui souffle l'idée de reprendre un morceau des Beatles.
Un extrait de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band paru un an plus tôt et chanté par le batteur Ringo Starr. Sans changer les paroles, Joe Cocker ne va pas se satisfaire d'une simple reprise. C'est une réinterprétation, une totale réinvention. Il incarne With a Little Help from My Friends avec des chœurs gospel à la Ray Charles. Joe Cocker est alors immédiatement propulsé à la première place des ventes au Royaume-Uni et il commence à se faire un nom en Europe, mais aussi aux États-Unis.
Lorsque Joe Cocker pose un pied dans l'État de New York en août 1969, il n'est pas encore une star du rock.
Non, et il doit jouer des coudes pour se faire une place sur l'affiche du festival de Woodstock entre The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin ou Santana. C'est devant cette marée humaine envoûtée en ouverture du troisième jour que Joe Cocker, entouré de son Grease Band, gorge déployée, débute à peine l'écriture de son histoire. Woodstock est le point de départ qui va rendre le reste possible. Le reste, c'est une carrière étalée sur 5 décennies ponctuée de 22 albums. Les boucles de ses cheveux lui chatouillent la nuque, ses roues flaquettes lui mangent les joues. Joe Cocker à la fin des années 60 avec Feeling Alright, emprunté au rocker anglais Dave Mason. Joe Cocker, dont on célèbre aujourd'hui le 7e anniversaire de la disparition.
Merci beaucoup, Omblin.
Avec plaisir.
Pour cette dernière partition 2021. Non, pas la dernière.
Non, il y en aura encore.
La dernière avec moi. La matinale voilà. Se poursuit dans un instant avec Lionel Gougelot et Anissa Haddadi qui a beaucoup de choses à nous dire pour la météo. Et tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27, c'est l'heure de vous donner rendez-vous à l'année prochaine.
Eh oui, on se retrouve début janvier, requinqué et grassouillé. Hein. On va en profiter pendant le réveillon, on ne va pas hésiter. Et d'ici là, c'est Lionel Gougelot qui va vous accompagner chaque matin dès 6h. Nouvel horaire, ça change effectivement la petite matinale. On se donne rendez-vous le 3 janvier.
Lundi, on sera là.
On vous souhaite en tout cas de très belles fêtes. Prenez soin de vous. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour.
Bonjour.